Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de fin de séance. Je m'appelle Areski Chouga, je suis accompagné de
Arnaud Decaze
et de
Jean-Yves Rabeau.
Bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un film avec Nicolas Cage, mais avant ça, est-ce qu'on a des petites news dans le monde du ciné ? Jean-Yves, tu nous as parlé d'un film de Peter Strickland qui va bientôt sortir, qui s'appelle Flux Gourmet. C'est un film d'horreur gastronomique.
Sensoriel.
Moi, j'aime bien cet acteur, là, Asa Butterfield.
Qui joue dans Sex-Thérapie sur Netflix.
Voilà. Et également, je pense qu'il a un contrat avec Netflix parce qu'il joue dans
Sex Education, non, plutôt.
Ah, Sex pas Education, sex pardon. Ouais. Pas Sex-Thérapie, ouais.
Oui, Sex Education, c'est avec Gillian Anderson. C'est
oui.
ça ouais.
Et, oui, c'est ça.
Et il joue aussi dans un autre truc Netflix. C'était un film d'horreur que j'ai plutôt bien aimé, là, qui s'appelle Choose or Die. C'est un truc peu, tu sais, de jeu vidéo hanté.
Ce sera peut-être le premier clash de l'épisode, parce que c'était mon coup de gueule news.
Ah ouais, ouais. Ah putain, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que t'en as pensé. Après, parce que moi, je me suis... Non, j'ai bien aimé. Franchement, c'était quoi, 1h30 Et il était 2h du matin quand je l'ai vu. C'était parfait.
En fait, c'est marrant ce film parce que donc très rapidement, en plus j'ai retrouvé le tout petit plot synopsis là juste pour planter le décor. C'est le film un peu sensation, événement que tous les teenagers se matent en ce moment. Donc il s'agit d'un thriller surnaturel qui suit Kayla et Isaac, deux jeunes adultes qui tombent sur un jeu vidéo maudit des années 80 qui s'intitule Curse Air, je crois. Mmh. Et s'ils réussissent à le terminer, ils empochent $125,000 attirés par l'appât du gain, le jeu d'arène virtuelle, des conséquences mortelles, etc. etc. Donc voilà, moi j'ai eu l'impression de... C'est un coup de gueule, j'ai envie de pousser conjointement aux annonces récentes de Netflix qui veulent remettre de la pub dans leurs abonnements.
C'est pas vrai.
Si. Et donc du coup, juste pour le film, moi j'ai l'impression qu'on est toujours la grosse machine pot-pourri fourre-tout de l'algorithme, genre on met une meuf qui galère, on met un jeu maudit, on met un peu la vibe Stranger Things des années 80. J'ai trouvé ça disons que là la promesse est pas mal, mais c'est comme d'habitude, c'est à dire que Netflix c'est niveau qualité, bon, c'est ça suit pas la promesse, quoi.
Pour moi, c'était juste consommable, quoi. En gros, c'était un Uber Eats du cinéma. Tu vois, c'est typiquement
ouais,
un truc
Uber
où tu regardes...
qui te met mal, qui fait un petit mal de bide un peu après, quoi. Genre comme le gros McDo qui traîne un peu sur le ventre, quoi. Et en fait, tu vois, j'ai envie de dire à Netflix, c'est un peu, c'est au lieu. C'est-à-dire que peut-être que Netflix devrait se poser les bonnes questions. Au lieu de se dire, ah, peut-être qu'on devrait baisser les prix, quitte à mettre de la pub, ben, pourquoi pas essayer de faire de la qualité, en fait. C'est-à-dire qu'ils se posent jamais la question de... tu sais, c'est on se regarde un peu trop le nombril et on se pose jamais la question de la qualité des programmes, quoi. Enfin, c'est un peu lassant.
Ils en ont parlé récemment, justement, quand ils parlaient de ce truc. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu une baisse des abonnés Netflix.
200 000.
Et donc, dans leur stratégie, ils disaient qu'ils envisageaient ce truc de publicité, mais que l'autre chose qu'ils envisageaient aussi, c'était d'augmenter la qualité, notamment sur les petits budgets. C'est-à-dire que arrêter, tu vois, de mettre $200 millions dans un Martin Scorsese, ouais. Mais peut-être faire ouais. plusieurs petits films, tu vois,
alors,
de qualité avec cet argent.
Scoop news voilà, d'Insider, de la série drôle qui est sortie, qui parle du stand-up de Fanny Herrero. Ils annulent finalement la saison 2.
Ah merde.
Voilà. Donc en vrai, je sais pas qui croire dans ça de ces trucs-là, parce que pour le coup, on pourrait dire que c'est quand même un truc de petit budget de faire cette ouais. série-là. En France en plus, parce qu'ils ont pas non plus énormément de production en France. Enfin, quand j'entends que dès qu'ils ont perdu 200 000 abonnés, ce qui peut être beaucoup, hein, mais je pense que ça affole les gens au niveau des actions Netflix, et je pense qu'en fait, ils vont faire exactement comme une entreprise fait, c'est-à-dire qu'au contraire, ils vont moins prendre de risques. J'ai du mal à... En fait, je pense que c'est un mensonge, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils disent ça pour que toi, tu te dises « Ah, peut-être que ça va changer, que ça va être mieux ». Mais après, on en a parlé souvent ici, mais je trouve que les productions Netflix, elles sont quand même... C'est juste... enfin,
c'est très possible. Et petit tips, je fais partie des 200 000 qui sont partis.
Ce sont des abonnés, c'est vrai. Est-ce que tu partages maintenant un compte ou pas du tout?
Non, non, non. En fait, je me suis rendu compte que je regardais plus beaucoup Netflix.
Ouais.
Voilà, c'est tout.
J'avoue que moi, là, je regarde que Better Call Saul, la nouvelle saison, et c'est tout. Enfin, et ce fameux Choose or Die, mais c'était vraiment en mode... je savais que j'allais voir un petit film d'horreur un peu nul, mais cool, quoi.
Alors après, tu vois, des fois, il y a quand même le Jan Campion qui arrive quand
ouais,
même.
C'est
qui
était
y a,
super,
ouais, ouais, cool. Il y a, y avait, j'avais adoré le... C'était le Cohen, non? La balade de...
Ouais,
de
ça fait deux ans,
Buster
ça, déjà.
Buster Scruggs.
Ouais.
Buster, voilà. Donc, de temps en temps, t'as quand même un truc comme ça, mais ça devient quand même...
C'est un par an,
mais fait. C'est ce que je me disais, ouais. Maintenant, je vais m'abonner quand il y a un truc que je veux voir, en fait. Tu
ouais.
vois ce que je veux dire, hein.
Ouais. Ouais, comme oui. une VOD, quoi. Ouais. Tu t'achètes une VOD.
Ouais, après, j'avoue que... Enfin, je sais pas si à quel point c'est chiant, mais ça vaut pas le coup de s'abonner juste un mois. Tu payes juste 10 euros. Tu vois tout ce que t'as à voir en un mois. Tu te désabonnes. Bim. En fait, c'est ça, hein.
Ouais, puis c'est un petit tournant, je pense, dans le sens où là, peut-être que les gens recommencent un petit peu plus à aller au ciné. On sort un peu
ouais,
la période du Covid. Et donc là, s'ils ratent le virage de pas proposer des trucs... Et il y a aussi le gros pari qui va être fait de, parce que tu sais, il se dit aussi qu'ils ont envie de laisser tomber le truc des comptes partagés, justement. Donc, oui. qui a envie de, tu vois, moi, par exemple, moi, je suis un parasite, hein, moi, je suis sur le compte de mes parents. si le jour où, on me dit, bon, ben voilà, tu peux plus avoir, t'as plus accès à ce deuxième écran. Moi, je m'abonne pas, quoi. Hein. C'est clair, nettement.
Bah en fait, pas surtout pas Netflix, effectivement, sur les trucs à regarder. Parce qu'en fait, on parle plutôt des séries, en fait, en termes de streaming et de choses comme ça. Et c'est vrai que l'offre OCS ou Canal, là, je sais que là, par exemple, la saison 3 de Barry et saison 2 de Raised by Wolves, en gros, tous les trucs qui sont de HBO ou du câble américain, c'est que via la plateforme Canal+. Plus, donc, sous-entendu, quand je dis câble américain, sous-entendu avec de la qualité. Mais du coup, ouais, autant payer un seul truc et pas Netflix.
En fait, cette semaine, j'ai reçu un mail d'une mailing list, tu sais, de A24.
Ouais.
Vous voyez ce que c'est A24? Je vais peut-être juste dire pour les auditeurs. En fait, c'est une boîte de distribution américaine. Qui récemment, en fait, qui est assez jeune, hein, qui a, je crois, moins de 10 ans, cette boîte, et qui ont sorti, grosso modo, leur cœur de métier, c'est les films d'auteurs un peu jeunes, un peu hype, quoi, on va dire. Ouais. Donc, c'est eux qui avaient sorti les deux premiers films de Robert Eggers, par ouais. exemple, The Witch et The Lighthouse.
Midsommar aussi, et tout ça. Hein.
Ouais, Midsommar, Ari Aster, c'est eux qui ont sorti les films, qui ont fait les films des frères Safdie.
Ouais, Uncut James. Uncut James.
Uncut James, ouais. Et donc voilà, plutôt un beau palmarès, quoi, on ouais. va dire, hein, dans leur écurie. Et en fait, dans ce mail, je regarde et au début, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un service de VOD de A24. Et je me dis, ah ben cool, je vais voir
ah
ce
oui.
qu'il en retourne. Est-ce
D'accord.
qu'on peut voir tous les films qu'ils ont sortis dessus et tout? Et non, en fait, c'est un abonnement que tu payes pour recevoir des goodies A24. Genre des t-shirts avec marqué A24.
D'accord.
un magazine A24, il t'envoie quelque chose pour ton anniversaire. C'est un peu le Club Dorothée, mais de A24, en fait. Tu vois ce que je veux dire, hein?
Ouais, ok.
Et c'est marrant parce que ça fait partie d'un truc que je remarque au niveau de cette société récemment. C'est ils viennent d'avoir un assez gros succès aux États-Unis avec un film qui s'appelle Everything, Everywhere, All at Once.
Oui, avec...
avec Michelle Yeoh.
Michelle Yeoh, pardon, ouais.
Et en fait, quand tu regardes comment les gens en parlent, etc., ils disent pas c'est un film réalisé par les Daniel, ce qui est deux types qui s'appellent Daniel, je me rappelle plus leur nom de famille, mais
ouais.
leur signature c'est The Daniels.
Ouais.
Et ils avaient fait Swiss Army Man notamment, qui était assez sympa comme film.
Oui.
On parle pas d'un film de The Daniels, on dit A24, Everything Everywhere All at Once. C'est-à-dire le nom du distributeur passe par-dessus le nom des réalisateurs. Et quand tu vois les gens en parler, ils disent « j'aime les films A24 », presque comme si c'était devenu un réalisateur de films, tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Et que c'était et en fait, je me dis, c'est marrant parce que on dirait que c'est... ils prennent un peu la stratégie Disney, Netflix, Marvel de développer une marque mais avec du cinéma d'auteur. Comme si aujourd'hui, c'était impossible, si tu veux, de parler de réalisateurs. Et donc, c'est des entreprises qui produisent des films. Un peu comme dans le jeu vidéo, où finalement, on connaît très peu de noms de réalisateurs de jeux vidéo. On connaît surtout les boîtes qui les font. Tu vois
ce que je veux dire, oui. Genre, et, c'est Ubisoft, quoi, maintenant,
Et notamment, je sais que les distributeurs français, ils gueulaient un petit peu contre A24, parce que pour pouvoir acheter leurs films et les distribuer en France, ils demandent des tarifs beaucoup trop élevés. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu le film, tu sais, First Reform de Paul Schrader,
oui,
qui avait été fait par A24, et aucun distributeur français avait pu avoir les droits parce qu'il demandait un tarif, c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire, ça aurait pas été remboursé s'ils avaient. Ouais. Ils avaient fait pareil pour le film First Co, qui a mis 3 ans à sortir en France pour finalement trouver un accord, parce qu'ils demandaient des tarifs trop élevés. Donc, ils empêchent en fait des films d'assez bonne qualité de sortir dans des pays étrangers parce qu'ils veulent se positionner à un endroit en disant nous, on est une marque de cinéma de luxe. Et donc, il faut payer, en fait, si vous voulez avoir... C'est un peu le Chanel, si tu veux.
Ouais, mais est-ce que ça va pas commencer à savoir chez les producteurs des films pour pas utiliser eux comme distributeurs, tu vois?
Parce que oui, mais en même temps, ils créent une marque auprès du public. Ils ont réussi dans ce fait de créer une marque. Et donc, ils font des films de bonne qualité. Donc, je veux pas non plus, tu vois, leur jeter la pierre. Mais dans cette stratégie de dire, on fait comme Disney en disant, on met en avant la boîte, c'est la boîte, tu vois, ce qui va être le nom de la marque. Est-ce que ça montre pas aussi un changement dans notre société où maintenant, de plus en plus, on est fan de marque, comme si c'était des personnes, et que ça arrive un petit peu dans le cinéma, tu vois ce que je veux dire?
Attention. J'ai une question. Ah, c'est des producteurs ou des distributeurs?
Les deux.
Ah, les deux. Oui, d'accord. OK. Il n'y a plus eu ça depuis longtemps dans le cinéma, je pense. Tu vois, est-ce que ce n'était pas un peu l'âge d'or du cinéma où on pouvait dire « Ah, un film de la Fox, ça veut dire quelque chose ?» Parce qu'en fait, ça ne voulait plus rien dire à un certain moment.
Fox,
ça, non
oui. Avec et ben, la grande époque, Warner contre Universal,
voilà,
par
tu vois. Et vraiment... Et peut-être que ça revient, mais ça pourrait aussi signifier, comme tu disais, peut-être de la qualité, dans le sens où c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux séries. Moi, je sais que s'il y a une série HBO, il y a un côté où je sais en vrai que ça va être mieux qu'une série sur NBC. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, enfin, dans le sens où... Tu chapotes via une marque, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il faut pas oublier de mettre en avant aussi les artistes, parce que si on commence comme ça, on finit comme Marvel, où les artistes n'ont plus aucun pouvoir, plus aucun intérêt, et ne fabriquent plus les films.
Alors après, c'est ça le truc, ça dépend de comment eux, ils se placent vis-à-vis de la promotion de leurs auteurs.
Ouais.
Parce que moi, si tu me dis, genre, s'ils sont fiers de Esther, par exemple, qu'ils le promeuvent, j'en sais rien, qu'ils en font une star eux-mêmes parce que, j'en sais rien, ils le mettent sur Vanity Fair, etc., ça vaut le coup, parce que quand même, il crée une hype aussi sur la personne qui écrit, et donc, il lui donne une chance aussi d'écrire et de produire des films ailleurs.
Oui, non, mais bien sûr, c'est-à-dire, pour l'instant, je ne les accuse pas de ça, c'est-à-dire, tu vois les films, et tu vois clairement que c'est des auteurs qui s'expriment dans leur... quand tu vois les films des frères Safdie, ça ne ressemble pas aux films d'Ari Aster, ça ne ressemble pas à d'autres films qu'ils produisent, mais eux, en tout cas, essaient de se fabriquer une image de marque, quoi. Et j'aime pas qu'ils invisibilisent des films à l'étranger aussi.
Ça, voilà, ça, après, c'est le seul truc, effectivement, qu'on pourrait dire qui est contre, parce que personne du coup n'a pu se le permettre en France, en fait, First Reformed,
par exemple. Non, et il est possible que Everything Everywhere All at Once sorte direct en VOD aussi en France. Ce qui est dommage.
Un truc à dire là-dessus, Jean-Yves, t'as une idée de où est-ce que tu te places pour ou contre A24?
Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. J'imagine que si ça peut faire comme Blumhouse, créer des franchisés, quoi, je verrais ça plutôt comme ça.
Après, oui, le seul truc, c'est que vu qu'ils se marketent en auteur, ils pourront jamais effacer le style des gens, comme Marvel le fait,
T'as sans doute raison, ouais.
Parce que ce serait bizarre de... Comment tu peux faire un style d'auteur? Ou alors c'est le style Sundance, tu sais?
C'est marrant, jouer dans des garages. Moi, je lis un peu les critiques américaines, tu sais, j'aime bien avoir pas juste le point de vue français, tu vois, donc je lis ailleurs. Et maintenant, on parle presque de style A24, tu sais, dans les critiques américaines.
Ouais.
Donc c'est marrant de voir ça. Et t'as envie de dire, mais quel style? C'est plutôt les Safdie, c'est plutôt Eggers, tu vois, c'est marrant.
Est-ce qu'ils sous-entendent pas juste une direction photo léchée et dans un film... Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans pas mal de films A24, il y a un côté de... Le film a l'air cher, mais on voit pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça, c'est beau en fait, c'est toujours beau. Il y a toujours un style
C'est toujours beau. C'est toujours
tu
beau.
Vois Alors que, bah voilà, alors que ça se passe juste dans des rues, alors que ça se passe juste dans, tu sais, une ferme, 5, c'est pas, tu te dis pas, waouh, ça a dû coûter très cher, mais en fait, ça a l'air bien dépensé, quoi.
Il y a du talent, quoi.
Ouais, c'est peut-être, ça va peut-être juste dire ça. Ouais.
Non, mais c'est sûr que je pense que ce qui va, comme tu dis, les protéger de partir dans un truc Marvel où on se fout du réalisateur, c'est que leur marque, elle est basée sur le fait de on produit des gens talentueux, en fait.
Mais on peut juste se reposer
ouais,
sur...
Ouais, et puis il y a l'esprit cahier des charges, un peu, t'arrives à cocher les cases, quoi. Tu sais, et puis si tu coches toutes les bonnes cases, tu restes dans cette ligne-là.
Ouais, c'est ça. The Batman 2 qui vient d'être validé pour une sortie. Je pense qu'on s'en doutait un peu tous, quoi. On s'est jamais dit que que comme par hasard il s'arrêterait à ce film-là, surtout qu'il était bien. Mais
j'aime bien.
Alors attention, pas de spoil parce que moi je l'ai pas vu, donc je me garde Batman plus l'épisode fin de séance que j'ai pas écouté encore. Donc please no spoiler.
Ok, parfait.
Du coup, un petit segue pour rester sur les nouveautés, j'ai vu dans les derniers films qu'on a vu, j'ai vu dans les nouveautés VOD françaises, j'ai vu un film qui a été une bonne petite surprise. J'ai vu un film qui s'appelle Mes très chers enfants avec Didier Bourdon et Josiane Balasco.
Ouais.
Et en fait, je pensais que j'allais tout droit. J'étais dans le sillage clairement de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, parce que c'était clairement marketé pareil et ça ressemblait vraiment beaucoup. C'était enrobé de la même façon, quoi. Donc on a maté ça en mode petit film tranquillou et finalement c'était pas si mal parce que c'est un peu mesquin comme film. C'est genre, alors le pitch, c'est que c'est Didier Bourdon et Josiane Balasco sont des parents qui vivent dans leur petite maison à Rambouillet, tu vois, et ils ne voient jamais leurs enfants. Donc ils ont une fille qui est jouée par Marie-Lou Berry, d'ailleurs, la fille de Josiane Balasco, qui vit à Paris, qui fait la fête, qui va jamais voir ses parents. Le fils, c'est l'archétype du banquier qui travaille à Levallois-Perret, qui, pareil, il est surbooké, il va, voilà. Et donc donc c'est assez triste, en fait, parce que tu vois vraiment des parents qui essaient de voir leurs enfants et pour les voir, en fait, ils leur font croire qu'ils ont gagné au loto. Et du coup, une fois que les enfants apprennent que les parents ont gagné au loto, évidemment, ils se mettent en mode gros parasite et ils veulent venir toucher le pactole, quoi. Et ça s'arrête pas là, en fait, parce que la mesquinerie, c'est qu'en fait, les parents, tout le film, ils leur font croire qu'ils vont leur donner des sous, mais ils leur donnent jamais les sous, quoi. Et c'est assez, assez sale, assez cynique.
Ouais, j'avoue.
Et dans le jeu d'acteur, j'ai vraiment beaucoup, ça fait longtemps que j'avais pas vu Josiane Balasco. Elle joue vraiment bien. Elle est un peu, j'apprends rien à personne, mais avec le Splendid, on a un peu le même jeu que un peu dans les meilleurs Christian Clavier, où il y a vraiment ces mimiques, ce jeu très gestuel, quoi, qui est très fort. Et elle a vraiment un bon game niveau méta, tu vois. Ce sera peut-être genre parce que elle joue plusieurs Josiane Balasco dans le film, quoi.
Ouais.
Elle joue la nouvelle riche, tu sais, la nouvelle riche qui a gagné au loto. Elle fait vachement bien. Et Didier Bourdon fait le job, il est un peu moins efficace. Et donc j'étais agréablement surpris de ce petit film qui est tout à fait sympa à regarder.
D'accord. Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans le cinéma français, mais je pense que tous les scénaristes commencent à avoir des enfants âgés et se sentent abandonnés par eux. Parce qu'il y a un autre film là qui sort en ce moment qui s'appelle On sourit pour la photo, qui va sortir, je crois, le 11 mai. C'est avec Jacques Gamblin. Et c'est, tu sais, un père qui veut recréer les vacances que sa famille a eues en 98. Et pour reconquérir sa femme, en gros. Mais, tu sais, il veut avoir ses enfants avec lui. Donc, il est obligé de payer son gosse en lui promettant qu'il ira à Ibiza pour revenir d'abord faire des vacances en famille. Des choses comme ça. Donc, voilà. Je tiens à souligner les problèmes psychologiques de tous les scénaristes actuels en France. Est-ce qu'on ne passerait pas au film d'aujourd'hui ?
Alors, il y avait une première surprise, c'est que normalement, Nick Cage devait participer au podcast, mais voilà, mais j'ai pas pu honorer la demande pécuniaire, quoi, parce que j'étais un peu trop cheap pour lui, donc voilà, il a pas, malheureusement, il ne viendra pas. Je vous ai préparé un petit quiz, Nicolas Cage,
trop bien.
Pour commencer. Alors du coup, c'est un quiz qui monte en pression et qui ferait un bon segue pour le film, je pense, puisqu'à la fin, il y a un peu des questions « what the fuck ?» et on saura plus trop si on est dans le Nicolas Cage, le Nick Cage, on saura plus qui est quoi, en fait, ok ? Donc c'est simple, je vais vous poser des petites questions rapidement, vous avez une question chacun, vous marquez un point, et voilà. Donc on va commencer, tranquillement. On va commencer tranquillement. Alors je commence pas. Vous faites un petit Shifumi en direct pour savoir qui a la première question.
Yes, attends, là, vas-y, ça. On va se mettre. Ouais, non, vas-y, chacun avec sa caméra. Voilà. Allez, Shifumi.
Ah, c'est Ariski.
Ok. Ouais.
C'est très simple, je vous le dis à tous. Shifumi, je fais toujours Pierre, quoi qu'il arrive. Donc si vous faites papier, vous gagnerez contre moi tout le temps.
Ce sera retenu, ça. Oui. À moins que ce soit une Ariski. Stratégie.
Hey, hey.
Tu hérites du coup de la première question. Très facile, on commence en douceur. De quel grand réalisateur américain Cage est-il le neveu?
Francis Ford Coppola.
Ok, trop facile. Merci. Allez, Arnaud, pour toi. Allez, on parle business, on parle fric. Quel blockbuster hollywoodien avec Cage en tête d'affiche a été le plus gros succès commercial de sa carrière?
Est-ce que c'est The Rock?
Alors, The Rock numéro 3.
Wow.
En fait,
moi je pourrais.
Mais je te donne une deuxième possibilité parce que t'étais vraiment pas loin.
C'est Volteface.
Moi je.
Non.
Moi je dirais que c'est Benjamin Gaines. Faut penser.
Ouais, c'est ça.
Ah.
Non, c'est Benjamin Gaines 1. Le 2 est numéro 2. Donc
ah,
numéro 1, Benjamin Gaines, numéro 2, Benjamin Gaines.
C'est Bruckheimer, quoi.
Donc, ok, on repasse ça à Reski. Alors, Ariski, là, on va rentrer dans du psychologique parce que là, il faut que tu te mettes dans la tête de Nick Cage. La question, c'est de quel film Nick Cage qualifie-t-il de grosse merde, mais qui a quand même le mérite de dire quelque chose de lui?
Un film qu'il a fait, alors, du coup.
Un film dans lequel il a joué qui est un blockbuster, qui est un gros film.
Ah, qui est un gros film quand même. Qui est une grosse merde, mais qui dit quelque chose de lui. Je dirais. Est-ce que c'est Gone in 60 Seconds?
Non. Non, je pense qu'il a bonne estime de Gone in 60 Seconds.
Ah ouais,
non, il s'agissait de Ghost Rider.
Mais Ghost Rider, ouais. C'est vrai que c'est une grosse merde.
Ok, on repart sur Arnaud. Arnaud va pouvoir égaliser peut-être. Pour quel film Nick Cage a-t-il reçu l'Oscar du meilleur acteur en 1996 et également Golden Globe du meilleur acteur la même année?
Alors, il me semble que c'est Leaving Las Vegas, non?
Ouais. Excellent! Arnaud revient au score hein, partout. C'est bon, ça. Pour quel film avec Nicolas Cage a-t-il reçu la Palme d'Or à Cannes en 1990?
C'est Laure et Lula?
Mais oui, bravo, ouais. C'était facile. C'est trop facile, ces questions. On va être obligé de partir sur les questions un peu plus what the fuck. Donc là, c'est à Arnaud. Il faut que tu rentres dans la tête de Nick Cage.
Allez, vas-y. Donc, je fais de l'acting chamanique, moi aussi.
Donc, selon Nick Cage, imagine t'es Nick Cage, quelles sont, selon lui, ses deux meilleures performances dans un film avec Nick Cage et qui sont conjointement, selon lui, les meilleurs films, quoi. Alors, du coup, il y en a deux. Donc, si t'en dis un des deux, tu marques un point.
Est-ce que c'est selon une interview récente ou plus... tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est récent.
J'ai envie de dire Pig.
Ouais, t'es trop fort. Pig, bravo.
Il est excellent.
Pig, Pig et selon lui, sa deuxième meilleure performance ever, c'est À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Effectivement, qui est du lourd. Hein, voilà. De partout, c'est très serré. On va être obligé de balancer des questions vraiment n'importe quoi. On passe sur le côté extravagant de Nick Cage, Ariski. Laquelle de ses dépenses extravagantes lors de ventes aux enchères est vraie? Alors, Nick Cage a-t-il acheté un couvre-chef ayant appartenu à Napoléon, un squelette de mammouth pour redécorer sa maison de L.A. ou une Lamborghini ayant appartenu au dernier Shah d'Iran?
Je crois qu'il aurait pu tout acheter.
Ouais, c'est clair. En vrai, il a tout acheté. Est-ce que franchement, tu sais quoi? J'ai envie de dire un squelette de mammouth.
Et non. Alors, il a acheté. Ça, c'est la petite histoire. Il a acheté un crâne de dinosaure. Il a volé la vedette à Leonardo DiCaprio.
C'était ça, un crâne de T-Rex, je crois.
Voilà. Et en fait, non, il a acheté une Lamborghini qui a appartenu au dernier Shah d'Iran.
D'accord.
Voilà.
Putain, il est fou.
Allez, on continue sur le what the fuck avec Arnaud. Vrai ou faux? Arnaud, gros fan de Superman, Nick Cage a prénommé son fils Kal-El.
Non, faux quand même.
C'est vrai.
Non, c'est vrai.
Et si, c'est vrai. C'est vrai, toujours de partout. Ariski, Nick Cage, vrai ou faux, Nick Cage s'est fait construire un tombeau à la Nouvelle-Orléans en forme de pyramide blanche de 3 mètres de haut.
Vrai.
C'est vrai.
Oh mon Dieu.
J'avais entendu parler d'un truc à la Nouvelle-Orléans, ouais, mais je savais pas exactement
Arnaud, tu peux revenir au score. Nick Cage a dépensé une fortune à essayer de vraiment retrouver la cité perdue de Z.
Putain, ce serait ouf.
Non. Non.
Oui, c'est faux. Ah, et en fait, ce qui est vrai, c'est qu'il a vraiment dépensé une fortune à essayer de trouver le Saint Graal. Et il a fini par abandonner. Si, si, c'est vrai. Question people pour il y a une avant-dernière question. Donc, question people pour Areski. Nick Cage a été marié avec la fille d'Elvis Presley.
Attends. Ouais, vrai, je crois.
Enfin, non, c'est comme, je crois, comme, c'est ouais, c'est
comme
quoi.
Michael Jackson. Attends, deux secondes, hein, parce que je sais qu'il y avait un truc avec Elvis, je crois que c'est ça. Ouais, ouais, vrai, vrai, vrai.
Allez, c'est vrai, même si ça a duré 3 mois, il a bien été marié avec la fille du King. 4-3. Alors du coup, il reste une dernière question, c'est la question folie. C'est un round d'enchères. Lequel de vous deux pense être capable de nommer le plus de films avec Nicolas Cage? Donc voilà, tu vous montez les enchères, je sais pas, Arnaud dit 12, et Areski, est-ce qu'il surenchérit ou pas, et c'est winner takes all sur qui arrive à nommer le plus de films avec Nick Cage.
Putain.
Ok, ouais, allez 12.
Putain. 12. Est-ce que tu penses pouvoir nommer plus de 12 films, Areski, avec Nick Cage?
Putain, plus de 12 films avec Nick Cage. Tu sais quoi, je veux dire non, parce que j'ai envie que ce soit Duck qui se fasse chier à le nommer 12 films, okay. Déjà.
Allez, c'est parti, on t'écoute.
C'est parti.
Alors, Arizona Junior, ouais. Sailor et Lula, Con Air, Volteface, God in 60 Seconds, Adaptation, Pig.
Ouais.
En fait, c'est trop facile.
Mandy.
T'es à 8, il t'en reste 4.
Ouais. The Rock. Ghost Rider.
Ouais. Plus que 2.
Living Las Vegas, deux, je l'ai dit ou pas?
Non, tu l'as pas dit, je crois.
Ouais, tu l'as pas dit. T'as dit c'est le... Il t'en manque un pour gagner le podcast.
C'est très facile. Et on va en parler aujourd'hui.
Oui, un talent anormatif, évidemment.
Il est sympa, c'est dans la bonne humeur, bravo. Donc Arnaud remporte et l'expert incontestable de Nick Cage pour cet épisode.
Nicolas Cage au fil. Alors, un petit synopsis peut-être de ce film, un talent en or massif. Donc je répète juste, tic-tic. Réalisé donc par Tom Gormican avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Aiki Reynolds entre autres, et qui est sorti le 20 avril 2022. Petite bande annonce.
Nick Cage.
Nick, tu vis dans la tour Sunset depuis plus d'un an.
Bah oui, il m'adore là-bas.
Et tu leur dois 600 000 dollars.
Ok,
et oui,
j'ai trouvé une solution à tout ça, mais je vais l'avoir ce nouveau rôle. Et quand je l'aurai, alors là tout va changer. Le comeback.
Le principal, c'est d'y croire.
Nicolas Cage, c'est pas vrai, je vous adore.
Ok. On a un nouveau projet.
Et ça parle de quoi, hein?
Tu pars dans le sud de l'Espagne, où tu es invité à la fête d'anniversaire d'un gentleman très fortuné.
Je ferai jamais ça.
Nick, c'est payé 1 million.
Je vais le faire.
Un petit synopsis.
Oui, ouais, donc c'est Nicolas Cage, joue Nicolas Cage. Une star un peu déchue d'Hollywood qui aimerait un peu être sur le retour, mais a beaucoup de déconvenues, que ce soit au niveau de sa carrière, des déconvenues financières, des déconvenues familiales. Et il va se voir proposer 1 million de dollars pour aller participer à l'anniversaire d'un riche excentrique catalan. Et en arrivant sur l'île privée de ce milliardaire, il est contacté par la CIA qui lui dit que ce riche excentrique serait peut-être le chef d'une mafia internationale et aurait enlevé la fille d'un homme politique catalan afin de faire retourner les élections en sa faveur.
Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Bon, moi, j'ai été très déçu par le film. J'en attendais un peu parce que j'aime vraiment beaucoup et sincèrement Nicolas Cage.
Ouais.
que je trouve est un acteur assez extra, et je pensais vraiment que ça allait être un petit film à la fois méta mais aussi hommage à Nicolas Cage. Finalement, je me suis rendu compte que le fait que ce soit Nicolas Cage a très peu d'impact sur la structure du film. Finalement, il s'agit juste d'une petite comédie d'espionnage pas très bien faite, un peu poussive et pas franchement drôle. Voilà, c'est mon avis un petit peu général sur Un talent d'or massif. J'aimerais y revenir après un petit peu en détail, mais je ferai ça plus tard.
Clairement, ce film, il a des vibes de JCVD, tu sais.
J'ai préféré JCVD.
Ouais. Alors, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, JCVD, dans sa construction et son côté méta, il donnait aussi, tu sais, le fameux monologue et la mise en scène du monologue de Jean-Claude Van Damme.
Ouais, alors
etc.
là, pour un peu, il y a un monologue de 10 minutes de Jean-Claude Van Damme dans JCVD qui est un des trucs les plus touchants que
ouais,
j'ai vu au cinéma.
Et vraiment, ouais, sincèrement. Et c'était audacieux, en fait, de faire ça pour JCVD. J'avoue qu'il y avait un petit côté où on pouvait s'attendre un peu à ça, peut-être à un moment dans ce film. C'était pas le cas, et c'est vrai qu'au final, comme tu dis, si ça avait pas été Nicolas Cage, on aurait pu inventer un faux acteur, et avec des faux films, et en fait...
Parce que finalement, il a les attributs classiques de la star déchue hollywoodienne.
Absolument.
C'est pas spécifique à Nicolas Cage, ce que je vois dans
exactement.
Le film.
Exactement, en fait, c'est juste que les références aux anciens films sont réelles, et pas fictives.
Voilà.
C'est-à-dire que... Et après, moi, je trouvais ça...
En plus, ici, moi, je vais te dire, et on va en parler, je pense que c'est un souci, c'est il ne prend qu'un aspect de la filmographie de Nicolas Cage, qui est l'aspect culte...
La meilleure.
Culte action. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Il le prend comme une star d'action, alors que la filmographie...
Il a fait autre chose.
Comme on l'a vu, la filmographie de Nicolas Cage est beaucoup plus large que ça. Il a fait aussi des films beaucoup plus intimistes, beaucoup plus...
Bien sûr.
Des performances beaucoup plus...
Mais après, c'est intéressant d'avoir
subtil.
Que au final, à Hollywood... Ça compte même pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça compte même pas d'avoir fait des films avec Lynch ou ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est faire des films qui rapportent de ouf, tu vois. Moi, je vais être plus indulgent parce que, en fait, j'ai passé un bon moment. Je trouvais que Nicolas Cage était drôle, que Pedro Pascal était drôle, vraiment, et que ça jouait plutôt bien. Je trouve pas ça spécialement poussif parce que, justement... Même si c'est un ressort qu'il réutilise pendant le film, le côté méta, parce qu'en fait, dans le film, les deux personnages, donc de Nicolas Cage et de ce milliardaire, écrivent un film ensemble, et en fait, ils écrivent des choses qui sont en train de se passer aussi. Donc pour moi, ça me vend quand même un petit sourire quand Nicolas Cage se fait appeler par la CIA, ce qui est quand même totalement... c'est ridicule, tu vois. Mais on est vraiment, effectivement, sur plutôt une sorte de comédie du dimanche, sans prétention, plus que un renouveau du genre méta et le film qui va définitivement faire ramener Nicolas Cage dans autre chose. Voilà. Je pense que c'était peut-être un cri de Nicolas Cage.
En plus, je vais reprendre un truc du film. Nicolas Cage n'est jamais parti.
Oui, c'est ça.
Il est toujours parmi nous. Il est toujours génial, en fait.
Mais je pense que c'est un cri de Nicolas Cage vers Hollywood, je pense aussi. C'est peut-être... est-ce que vous le ressentez pas comme ça ? Genre une sorte de truc de, en fait, lâchez-moi à la grappe des films que je suis censé faire ou qui sont censés me ramener sur un certain devant de scène médiatique, alors qu'en fait, il est jamais parti. Il joue dans des films excellents. Genre franchement, Pig, Mandy... Enfin, c'est des films dans les trois dernières années.
Ouais.
Et qui sont trop bien, en fait. Mais c'est vrai que il y a ce côté mémesque voilà, sur Internet. Si tu mets Nicolas Cage, c'est tout de suite le gars de...
Il y a un truc sur Nicolas Cage, c'est-à-dire il y a un peu deux volets à sa carrière. Je pense que sa carrière a été irrémédiablement changée par toutes les conneries qu'il a faites dans sa vie et qui l'ont endetté, ça c'est certain.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a plein de films qu'il a acceptés, qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Par contre, il y a un truc qu'il faut lui reconnaître, c'est que même dans ces films-là, il fait le job à fond.
Ouais.
C'est-à-dire il est pro. Et que malgré ça, il a toujours... je veux dire, c'est un véritable artiste et il faut le prendre comme tel aussi. Et tout au long de sa carrière, il a toujours aussi, même malgré les dettes, accepté des films où il était moins bien payé parce que ça l'intéressait de faire. Parce que...
Ouais, pour aider les réalisateurs qu'il aimait
bien. Justement,
ce
côté où au début, on le voit tomber amoureux d'un script, c'est pour Pig, c'est ce qui s'était passé. Hein.
Ouais.
C'est un premier film, Pig. Et le type est allé voir Nicolas Cage et il lui a dit, bon, on n'a pas les moyens de vous payer, mais j'aimerais que vous le fassiez. Il a lu le script, il l'a fait, quoi. Donc, il faut lui reconnaître aussi un truc, c'est que c'est un véritable artiste qui a dû régler quelques dettes à certains moments de sa carrière. Voilà, c'est ça.
Ouais, mais moi, mon ressenti, c'est que ce film, c'était une façon de dire, allez vous faire foutre aux gens qui pouvaient apposer une certaine, doctrine du « non, c'est pas comme ça qu'on gère sa carrière à Hollywood ». En disant non seulement je fais ce que je veux avec les films que je faisais avant, mais en plus je me fous de votre gueule dans la façon dans laquelle vous faites vous vos films. Donc moi ça me va, en gros.
Je crois que par rapport à ce que vous dites, il y a une question de point de vue aussi, parce que c'est vrai que je pense que le public français est souvent reconnu par certains artistes américains comme peut-être un peu plus connaisseurs, un peu plus indulgents. Je pense que vraiment du point de vue américain, je pense qu'aux États-Unis, Nick Cage n'est plus considéré aujourd'hui comme la méga star parce qu'il y a cette espèce de traversée du désert et c'est pas effectivement les années 90-2000 où il y avait les The Rock, les Gone in 60 Seconds, etc. Je vais être assez d'accord avec Arnaud sur le film de façon globale parce que, comme vous, certainement, j'allais avec des grosses attentes parce que je suis un gros fan de Nick Cage. Fan de la première heure, je suis allé volontairement voir le film, j'aurai l'occasion de vous en parler, en version française pour la performance du doubleur historique de Dominique Collignon-Morin de Nick Cage, et c'est assez intéressant en fait parce que même lui on sent qu'il essaie d'amener un côté un peu méta au doublage.
D'accord.
Et ça m'a rappelé un petit peu, voilà, l'adolescence et pour moi, Nicolas Cage, c'est un peu la génération vidéo club, quoi. Hein, c'est-à-dire, quel était le nouveau gros blockbuster avec cet acteur. Et en fait, je pense que ça démarre bien. Moi, je dirais que je passe un super moment jusqu'au moment où il commence à aller se balader avec Pedro Pascal sur l'île, quoi. Et à partir de là, le film, à mon avis, souffre d'un troisième acte assez faible. Très peu de personnages secondaires, effectivement, et c'est pour ça que j'ai souvent pensé à tout le film. Finalement, j'ai pensé à ce qui aurait pu être mieux, et je pensais souvent au film Spy de Paul Feig, tu sais, qui a beaucoup de personnages secondaires vraiment très cool. Et j'ai pensé à ça par rapport aux personnages de la CIA qui vraiment sont, pardon, mais nuls à chier en fait, tant au point de vue acting que ce qu'ils ont à dire. Donc là, il y a clairement des grosses lacunes. Après j'aime bien le côté il y a un moment c'est un petit peu je crois la scène hommage à Volteface où ils sautent tous les deux en slow motion de la falaise là j'ai eu l'impression de rentrer dans un manège en fait parce que c'est le moment où Nicolas Cage, pour lui faire plaisir, il fait le Nicolas Cage des films des années 90, là il lui dit allez on y va, il décide de lui faire plaisir et de jouer une scène dans la scène. Et finalement, moi j'ai attendu tout le film qu'on lise son putain de scénario en fait, parce que tout le film il dit j'ai écrit un scénario, est-ce que tu veux jouer dedans? Ouais. Et on va pas au bout de ça en fait, tu vois, genre ils jouent des scènes un petit peu tous les deux pour s'amuser. Je trouve que Pedro Pascal, comme toi, Areski, j'aime beaucoup, même s'il est un peu sous-utilisé, il y a un truc un peu bromance, un peu gay qui se met entre tous les deux, on sait pas trop où ça va, ça m'a fait penser un peu à ce film où il y a.
Pedro Pascal donc joue le milliardaire, je dis pour.
Voilà. Ça m'a fait penser à ce film où il y a tu sais James Franco qui va interviewer Kim Jong-il là,
oui.
Où tu te rends compte que parce qu'en fait si tu veux je trouve que ce qui est vraiment dommage avec le truc de Pedro Pascal c'est que je trouve que il y avait vraiment un parce qu'en fait au départ ce qui est marrant c'est que Nicolas Cage il y a un petit peu un truc marrant, il se dit ouais vas-y c'est mon pote, j'ai pas envie de le trahir, j'ai pas envie trop de l'espionner pour la CIA quoi.
Oui.
Et il y a un petit moment dans le film où on va se demander, il y a un petit suspense, est-ce que Pedro Pascal est vraiment le méchant ou pas, parce que finalement on n'a jamais cette certitude. Et je trouve que c'est une des lacunes du film, c'est de pas avoir assez surfé sur ce filon là en fait au niveau du suspense. Et finalement toutes les promesses sont toutes abandonnées au même moment, comme si c'était vas-y c'était un délire, vas-y ça me saoule, j'ai envie de rentrer à LA et voilà. Et c'est dommage parce que donc là je suis assez d'accord avec Arnaud sur ça, c'est-à-dire que voilà c'est très décevant et à l'arrivée ça devient un film et même tu vois les scènes d'action sont nulles quoi, voilà.
Oui.
Et donc ça devient un film un peu chiant quoi.
Après là où je te rejoins c'est quand même il y a une partie du film où en fait mais je crois que je deviens trop indulgent parfois juste arbitrairement ou si mon attention peut ne plus être sur le film, mais dès que l'action, parce que voilà, il y a une phase d'action qui commence dans ce film entre le deuxième et le troisième acte, les courses poursuites ou les choses comme, en fait, c'est-à-dire toute la fausse intrigue qui a été créée avec le cartel d'armes ou je ne sais pas, c'est vrai qu'à partir de là, plus rien n'était intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on a abandonné même la bromance qui se crée avec Pedro Pascal. Et j'ai un petit côté, maintenant, je crois que ça c'est automatique, en fait. C'est juste maintenant, je regarde un film et je fais genre, ah oui, ok, c'est le moment où tu vas faire des courses-poursuites et je vais pouvoir aller pisser, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a vraiment un côté Adobe Action. Et il génère des scènes qui sont... Où tu sais, au début du film, tu sais... Si tu es en présence d'un metteur en scène ou de Jean-Michel Trépied et que je vais poser ma caméra ou faire les trucs par des assistants réels comme d'habitude, tu vois.
Là, dans la mise en scène, et que ce soit à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du découpage, on est dans un découpage de série télé Netflix.
Quoi. Voilà. Et en fait, pour moi, ça, c'était... J'avoue que c'était un film Netflix. Mais après...
Et au niveau de la direction d'acteur aussi, où ça va pas beaucoup plus loin, en fait, que la surface des choses, en fait. C'est...
Il y avait quand même une mini-promesse, et comme tu disais, cette scène sur la falaise, où à un moment, justement, la caméra fait un petit mouvement quasi Michael Bayen sur la tête de Nicolas Cage avant qu'il sorte son espèce de réplique et avant qu'ils sautent tous les deux dans l'eau. Et je me suis dit, ah, peut-être que le reste du film, ça va être ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ils vont utiliser cette espèce de gimmick où ils vont mettre en scène Cage qui joue Cage... devant ce gars qui le paye pour juste être là à son anniversaire, et en fait c'est vrai qu'ils font pas ça.
Pour moi, il y a deux moments sympas comme ça. Il y a celui-là et il y a le moment du mur aussi, où ils sont complètement drogués, oui, et où ils essaient de passer par-dessus un petit muret parce qu'ils pensent être poursuivis par deux vieillards.
Et c'est vrai que tu dis, il pouvait y avoir plus de gags,
il aurait pu y en avoir plus de gags comme ça, mais d'une... Alors je sais pas, j'ai envie de parler un peu plus en détail, donc est-ce qu'on part dans la partie spoiler?
Yes, on peut donner nos petites notes ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis, moi, je mets quand même 3 miams parce que ça me fait plaisir de voir Nicolas Cage.
Ouais, pareil, 3, parce que j'ai pas non plus, je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment,
voilà,
c'est quand même globalement... et puis il y a Nick Cage, quoi, donc tu vois, c'est
disons
toujours bien, quoi.
Par rapport à l'Uber Eats de Choose or Die, tu vois ce que je dis? C'est plus digeste, quoi.
Je sais pas, je vais mettre 2, moi.
2 miams. Donc voilà, si vous voulez... ne pas être spoilé pour un talent en or massif. Arrêtez immédiatement ce podcast et maintenant.
Le poids insupportable, parce que le tirogène, c'est ça, c'est le poids insupportable d'un talent en or massif. C'est quand même vachement mieux. Quoi.
Je trouve que ce titre en anglais est fou et est trop drôle, en fait. C'est vrai. Impossible d'avoir tout ce talent, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce que tu voulais dire dans les détails du coup?
En fait,
en
ce qui se passe, c'est, tu vois, dans la structure, et je vais recouper quelques trucs que tu as dit, Jean-Yves, d'ailleurs, hein, notamment au niveau des personnages secondaires qui sont malheureusement inexistants, et que c'est un problème, et que c'est un problème dans une comédie, notamment. En fait, le film, il nous donne un petit peu sa clé de fabrication, de toute façon, le film. C'est dans le scénario qu'ils écrivent, ils disent « on va faire un film qui commence comme une étude de caractère et qui terminerait comme un film d'action pour essayer de réunir, tu vois, les deux ». Donc, on voit que c'est le projet qui a voulu être fait, puisque le film est clairement fait comme ça. Après, le problème que j'ai dans le film, c'est... Alors, vous dites que dans la deuxième partie... Vous êtes un peu fait chier, donc la partie vraiment action qui n'était pas très bien mise en scène, pas très bien tenue. Mais moi, je vais dire, dans l'étude de caractère, je trouve qu'on est très pauvre aussi. C'est-à-dire qu'au début du film, on a d'abord, ça commence par la présentation de Nicolas Cage. Et dans cette présentation, on nous montre quand même un personnage déjà très unidimensionnel. C'est-à-dire que... c'est une star ratée qui va faire des impairs un petit peu durant toute cette première partie. Autour de lui, on a des personnages qui, pareil, n'ont pas tellement de réalité. C'est-à-dire, sa fille a honte de lui. Et c'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle a pas, on n'a pas construit quelque chose autour d'elle. C'est-à-dire, traditionnellement, tu vois, pour présenter des personnages dans un film et dans un film hollywoodien, pour montrer, par exemple, qu'il y a une déconnexion entre les enfants, on va essayer de l'incarner dans quelque chose. Ça peut donner des clichés comme le père qui loupe le match de baseball. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est incarné dans quelque chose. Ici, c'est incarné dans rien du tout, à part, tu vois, de se baser vraiment sur ce cliché qui est là. Mais pour moi, le véritable problème que ça pose dans cette première partie, c'est que le type d'humour sur lequel est censé reposer cette première partie, c'est le cringe.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est montrer Nicolas Cage qui, imbu de lui-même, ne voit pas, qui gêne les personnages en fait autour de lui.
Tu penses que c'est, tu penses que c'était voulu comme ça parce que justement, j'aurais dit, c'est la scène qui incarne le fait que sa fille a honte. Mais si oui, c'est un peu cringeant, mais c'est un peu cringeant en mode.
C'est-à-dire que c'est un peu tout le temps. C'est-à-dire, c'est tous les ressorts. Tous les ressorts du film, c'est quand il est avec le metteur en scène pour parler du film, ou par exemple, il lui dit, je veux faire un essai pour la scène, le réalisateur lui dit non, il le fait quand même, et il fait un devant peu exprès tout le monde, ouais. de pas hyper bien le jouer, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc très, très outrancier quand il fait cette scène. Donc, je vois clairement que le projet, c'était de faire un humour cringe, mais que pour que l'humour cringe, donc pour résumer, l'humour cringe, c'est la honte empathique, c'est avoir honte pour quelqu'un à l'écran. Et pour construire un moment cringe, qui est un humour que j'adore, hein. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, mais il y a des éléments qui doivent être très précis, c'est-à-dire que d'abord il faut installer les conventions sociales pour pouvoir en fait les briser. C'est ça qui va créer le cringe. Pour montrer un exemple, tu vois, d'humour dans la matière, c'est Mr Bean par exemple. Mr Bean, c'est que ça, c'est un type qui va faire des bêtises dans la société anglaise, généralement un petit peu prout-prout. Donc, oui. qui va déranger des choses. C'est Ricky Gervais. Bon, c'est très anglais, hein, l'humour cringe, du coup. Ouais. Ça va être Ricky Gervais dans The Office, avec ce type qui veut passer pour une espèce de patron super open, super sympa auprès de ses employés, pour une chaîne de télévision qui le filme, mais qui va pas arrêter, en fait, de montrer qu'il est raciste, qu'il est dégueulasse envers ses employés. Mais malgré lui, c'est toujours, il veut projeter une image en fait de quelque chose et on en arrive à autre chose. C'est souvent ça, c'est-à-dire c'est vraiment axé sur une situation. Si tu prends les bêtises des sœurs Philippon par exemple, on a une situation qui est une fête de famille où il y a un intrus qui va rentrer, tu vois, à l'intérieur et qui va se faire passer pour un serveur mais qui n'est pas vraiment serveur, et du coup en fait le cringe va venir de son incompétence les catastrophes qui vont s'en suivre. Or ici en fait on n'a pas installé cette ambiance de politesse parce que les personnages secondaires n'existent pas. Et donc résultat, je me suis jamais senti gêné pour Nicolas Cage.
Je suis d'accord, c'est pour ça que je te demandais, en fait je te posais la question, est-ce que tu penses que c'était voulu, parce que en fait on ne fait que flirter avec le cringe. Fait, et c'est vrai qu'on est plus on est safe souvent. Je pense que ça vient d'un manque peut-être de sincérité générale, d'introspection, parce que tu vois, je parlais de JCVD tout à l'heure. Bah, en fait, dans JCVD, mine de rien, il y a un truc qui se passe, il repart en Belgique, là où il a commencé sa carrière, et avec ses parents, et le côté de genre, est-ce que mes parents ont honte de moi parce que j'ai fait trop de conneries dans ma vie, etc., etc. En fait, là, par contre, je ne sais rien de spécial de Nicolas Cage, à part qu'effectivement, peut-être, il dépense trop d'argent, mais ça, on le voit jamais. Juste, on a une petite vanne au moment où il propose de racheter une statue acheté à 6 000 $ à 20 000 $, ce qui est très drôle. C'était très drôle, mais on n'a pas, les vrais problèmes de Nicolas Cage. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait eu une introspection peut-être un peu plus profonde, on aurait eu peut-être des vraies scènes. En fait, ouais, mais en vrai, ta fille, ok, elle a honte de toi parfois, mais aussi, c'est quoi vraiment ce qui vous a gêné le plus, etc.
Et puis, c'est quoi votre lien aussi ? Parce qu'on ne le voit pas, le lien qui l'unit avec sa fille, tu vois, dans le film.
Et c'est ça aussi, le truc, c'est que par contre, il y a une scène où il dit, où il demande pardon à son ex-femme et sa fille, où justement on lui dit genre, c'est ça ta demande de pardon, c'est pas assez, c'est pas assez sincère, etc. Donc c'est toujours pareil, il y a un côté tellement méta du fait que je sais pas si je dois l'excuser ou pas, dans le sens où en gros j'ai bien compris que vous vouliez pas en fait de mettre autant de sincérité dans qui est le personnage de Nicolas Cage. Et je sais pas à quel point c'est voulu, parce que moi quand je vois que quand même c'est adressé dans une scène, je me dis si ça se trouve en fait c'est voulu depuis le début en disant en fait les gars je suis pas là pour vous dire vraiment qui je suis. Si vous me pensez une star qui dépense trop et qui a besoin de thunes comme ça, et ben c'est quoi, je fais un film sur ça en fait.
Oui, mais du coup, c'est quoi le projet ? Parce que je vois clairement que, tu vois, il essaie de faire plusieurs scènes comme ça, ça marche pas, et en fait, cette manière, tu vois, de l'oraliser dans le film, tu sais, c'est ce qu'on appelle en scénario le lampshading, mettre un abat-jour, en fait, pour cacher le problème, mais ça n'enlève pas le problème, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Fondamental du film, qui est, en fait, que les personnages ne sont pas assez fouillés. Comme tu l'as dit, dans la relation avec Pedro Pascal, là aussi, il pourrait y avoir du cringe ahurissant, c'est-à-dire que c'est un ressort de cringe génial, d'un fan absolu qui rencontre une star. Mmh. C'est des moments de cringe qui peuvent être hilarants, en fait, ce genre de...
Non, mais c'est pour ça, alors que pas du tout. Et même, alors en fait, j'étais apaisé par le fait qu'en fait, ce soit cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi. Moi, en vrai, j'ai juste bien aimé les moments de bromance.
Au début, tu vois, pareil, ça aurait été plus fort si ça avait été... Au début, ça avait été gênant, et après, ils trouvent vraiment une connexion. Tu vois ce que je veux dire? Ça joue pas assez sur les contrastes, justement.
Il n'y a pas de contraste.
Et ça donne l'impression, justement, que les personnages sont unidimensionnels, parce qu'il n'y a pas de mouvement, en fait, si tu veux, entre une scène et une autre. On dirait que tout est installé au début et qu'il n'y a pas vraiment, tu vois, justement, d'étude de caractère. Ce qu'il voulait faire dans cette première partie et qu'il a complètement raté, je pense.
Ouais.
Et ensuite, je pense que dans les scènes d'action, pareil, il exploite pas suffisamment le potentiel. Je m'y fais chier dans ces scènes d'action. Elles sont mal filmées. Une scène qui aurait pu être géniale, c'est celle où il se déguise en chef de la mafia qui revient. Et là, pareil, ça aurait pu être génial, le jeu qu'il pouvait y avoir.
C'est bizarre d'ailleurs de ne pas avoir choisi de le faire beaucoup jouer en tant que Sergio l'italien, le mafieux italien, parce que c'était parfait, quoi.
Ils auraient pu tenir 2 heures avec une scène comme ça, tu vois ce que je veux dire, vraiment exploiter, faire des gags, tu vois, faire monter le suspense, et ici en fait c'est résolu tout de suite, quoi.
Pour moi, cette scène, c'est très évocateur, à mon avis, de la genèse du film qui relève de la déconne. C'est au détour d'un verre avec l'agent, c'est « Ah, ce serait trop marrant que je me maquille, quoi. » Et ça dure aussi longtemps que le moment où on en a déconné autour d'un verre, tu vois. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Areski, par rapport à JCVD, ce qui est intéressant, à mon avis, la vraie différence par rapport à JCVD, c'est que quand je vois ce film, Jean-Claude Van Damme, tu vois, il se met all in dans le film.
Oui.
Alors que là, Nicolas Cage, il y a beaucoup de moments dans le film où il me donne l'impression de pas vraiment se mettre all in. Tu sais, il y a quand même une petite retenue qui fait que comme tu vas pas au bout du truc, bah du coup c'est, il y a un peu une dissonance et c'est pas crédible.
Il est pas touchant comme Jean-Claude Van Damme pouvait être touchant dans JCVD.
Mais ce qui est paradoxal, parce que Nicolas Cage justement est all in dans tous les autres films, en fait. Tu vois. Genre, il est all-in dans Ghost Rider 2, quand même. Et dans le film où il fait Nicolas Cage, il n'est pas all-in, mais parce qu'effectivement, peut-être que c'est juste qu'ils n'ont pas défini le Nicolas Cage dans le film.
Il y a un problème de scénario à la base, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses à incarner, en fait, dans ce rôle. Il n'y a aucun moment où il lui donne vraiment, tu vois, il n'y a pas un moment où le réalisateur lui donne 10 minutes de film pour faire un monologue face caméra, tu vois ce que je veux dire. On l'a jamais, ce moment. Et même le moment où il devrait y avoir, tu vois, la réconciliation avec sa famille, ça nous est montré comme le film qu'il a fait avec Pedro Pascal plus tard. Et le moment où il se réconcilie avec sa famille, il se réconcilie avec des actrices qui jouent sa femme et sa fille. C'est-à-dire que même ce moment qui aurait pu être un moment de sincérité, c'est une blague pas très réussie, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Et puis, tu vois, il y a un moment, moi, que j'aime bien, où je pensais que ça allait décoller aussi. C'est le moment où, et qui, en fait, est très faible. Et là, je pense à Spy, qui, au contraire, est vachement bien, parce que dans Spy, avec Melissa McCarthy, à chaque fois que les agents secrets en fait sont sur le terrain et qui sont un peu avec genre la CIA dans les oreillettes, quoi, les personnages secondaires, tu vois, c'est super marrant, c'est des mères au foyer en fait à la CIA, donc du coup ça crée un truc super comique, super drôle. Et là, en fait, juste le comique repose sur le fait que Nicolas Cage, il va un peu s'empoisonner tout seul, il va tomber par terre, quoi, tu vois, c'est tout.
Oui.
Et ce qui est vraiment dommage, c'est que moi, il y avait une promesse qui était pas mal, c'est que, tu sais, quand il y a les moments bromance avec Pedro Pascal, je trouve que, et ça doit sentir le vécu, il joue à la perfection le gars qui est saoulé d'être un peu le puppet du milliardaire, en fait. Il est là, il est un peu obligé d'être là, mais il joue vraiment bien le gars qui traîne au lit, etc.
Ouais.
Et à mon avis, il y avait vraiment une possibilité d'aller à fond peut-être sur ce truc de la CIA et de faire peut-être un truc un peu théâtral, un peu quiproquo, où il fait des allers-retours entre je sais pas trop qui j'ai envie d'être, je sais pas trop si j'ai encore envie d'être ce gars qui est le puppet du milliardaire. Et très vite, en fait,
shutdown, même, c'est arrêté.
C'est shutdown direct.
Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que Tiffany Haddish et Ike Barinholtz, c'est des gens très drôles, quoi. Et quand tu les vois dans des comédies américaines d'habitude, c'est les bonnes comédies. En général, il y a des bons dialogues, des bonnes situations comiques, etc. Et en fait, c'est vrai que ces deux personnages qui auraient pu être très intéressants à faire évoluer avec Nicolas Cage pendant qu'il était chez ces personnes. Et en fait, au final, non, en fait, c'est vrai qu'on coupe les liens assez rapidement.
Et puis, c'est ça le truc, en fait, que quand tu joues méta, comme c'est le cas ici, où genre, tu sais, on rigole en disant que finalement, on va construire ça comme un film hollywoodien classique, en disant que ça va terminer, tu vois, par... Ouais. Il n'y a pas tellement de réflexivité sur ça. Et ça me fait penser à un autre rôle de Nicolas Cage, c'est adaptation de Spike Jonze, ouais, où il joue le scénariste Charlie Kaufman, donc le scénariste même du film, en train de devoir adapter un roman qui lui a été commandé par un studio hollywoodien et en train d'échouer à adapter ce même roman. Et ce qui est marrant dans l'adaptation, c'est que justement, au début du film, quand il accepte de faire cette adaptation, il dit au studio hollywoodien, mais vous savez, je ne vais pas adapter la structure classique hollywoodienne, je ne vais pas rajouter une romance qui n'est pas dans le livre, ou alors une histoire de trafic de drogue, et ça ne terminera pas par une course-poursuite en voiture. Mmh. Et bien sûr, le film se termine par une romance avec les personnages principaux, un problème de drogue qui est rajouté, et une course-poursuite avec ses voitures. Donc en fait, mais quand il montre ça dans l'adaptation, il le montre comme un échec de l'adaptation, et c'est une réflexion, en fait, sur l'art et la commercialisation de l'art qu'il peut y avoir dans cet endroit-là. C'est-à-dire, il y a une vraie réflexion qui est faite autour de ça, et ça devient hilarant, en fait, quand ça arrive dans le film. Et ici, en fait, on dirait qu'il y a juste un abandon, comme tu dis, qu'on part d'une idée qu'on a échangée avec un agent sur un coin de table après une soirée arrosée, tu vois, à Los Angeles, et en fait, qu'on ne dépasse jamais ce truc de, finalement, on a fait un film tout à fait lambda hollywoodien, on a juste mis Nicolas Cage dedans, qui joue Nicolas Cage, quoi.
Je suis d'ailleurs très étonné qu'il n'ait pas trouvé, parce que pour avoir revu Adaptation récemment, et d'ailleurs je n'arrive pas à comprendre comment il est possible que Nicolas Cage n'arrive pas à trouver un réalisateur qui puisse, qui soit dans ce délire un peu méta et qui puisse lui servir à mettre son truc en valeur, quoi, parce que niveau mise en scène, enfin, c'est extrêmement plat. Ah, et du coup, je comprends pas pour comment il est pas trouvé, enfin, Nick Cage ne trouve pas un mec qui soit capable de lui rendre service à ce niveau-là, quoi.
Moi, je pense que ça souligne juste le fait que je pense là, les réalisateurs n'ont plus trop de pouvoir, en fait, à Hollywood, quoi. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vu Mandy ou Pig ou quoi et qui sont là et qui se disent putain, j'aimerais trop bosser avec Nicolas Cage. Je pense que c'est juste les prods et tout ça qui disent non, Nicolas Cage, non, on va pas. Tu pourrais prendre plutôt quelqu'un qui a la vraie hype, prendre J.K. Simmons, tu vois, et c'est tout. Parce que comme tu dis, même au-delà de ce film pour un truc méta, hein. Juste Nicolas Cage, faire tourner Nicolas Cage dans ton film, c'est pas un hasard si à chaque fois c'est que des premiers ou des seconds films de gens et c'est quand même des films excellents au lieu que ce soit des gros films avec des gros réalisateurs. Je pense que la réponse c'est juste que aujourd'hui personne peut dire c'est lui qui sera mon protagoniste. Juste deux secondes, j'ai retrouvé le titre de la série avec notamment Ike Barinholtz et Tiffany Haddish, c'est The After Party. Et je recommande, c'est en 8 épisodes et c'est très bien. Les dernières séries d'Apple Plus, c'est très bien. Et je reviens juste sur le truc de méta, de ce que tu dis. Effectivement, au final, c'est fait un film lambda. Moi, j'ai toujours ce truc de... Dès que c'est méta, je donne toujours trop, peut-être, de bénéfices du doute. Et je trouve toujours la raison géniale qui fait que ça passe bien. C'est qu'en fait, justement, ils ont voulu faire un film lambda. Voilà, ça, c'est ma théorie.
ouais, c'est possible. C'est possible, mais c'est tellement décevant quand... Tu vois, par exemple, est-ce que vous avez pas... Moi, j'étais exaspéré du twist avec, il était proxy pour son cousin qui, est vrai Puppet Master.
Bon, on le savait depuis le début, en vrai.
Un personnage qui est nul à chier, quoi.
Oui. En fait, ça se sent parce que le personnage de Pedro Pascal, il n'est pas du tout construit comme ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Jean-Yves, on ne joue jamais vraiment sur le suspense de est-ce qu'il a des mauvaises intentions envers Nicolas Cage. Non. Il aurait fallu jouer ça, donner un peu plus d'épaisseur au personnage et que finalement, ce que Nicolas Cage aurait pu lire comme des mauvaises intentions était juste son côté fan stalker, en fait. Vois ce que je veux dire,
mais ils l'ont pas joué comme ça, et ça c'est un gros regret de ce film, on n'a pas vu assez d'huile d'olive, parce que soi-disant c'est un mania de l'huile d'olive ou je sais pas quoi.
Il y a pas un olivier dans le
et en vrai ça aurait été drôle que lui dans la famille ce soit vraiment le gars qui s'occupe de l'huile d'olive, mais que, tu sais, j'en sais rien, ils blanchissent de l'argent des armes, Et qu'à chaque fois, il va faire des trucs qui paraissent suspicieux, alors qu'en fait, c'est que des trucs d'huile d'olive, tu vois. Et pendant ce temps, c'est son cousin qui s'occupe de tuer des gens. Mais oui, oui, c'est vrai que... Bah, après, c'est toujours pareil. C'est un gars imbu de lui-même, et c'est un film où on ne montre que lui. Et les autres sont là juste pour le faire paraître... plus grand que nature. Donc, en fait, je me dis, ouais, tout va bien quand même dans cet esprit-là. Mais je suis quand même d'accord pour dire que en vrai, on pouvait rendre le tout plus drôle et mieux mis en scène.
En fait, c'est ça. C'est, si tu veux, c'est pas que le film, en plus, c'est horrible. Bon, c'est un film hollywoodien lambda. J'aurais pu m'en passer, j'aurais pu pas le voir. mais ce qu'il y a, c'est que j'étais vraiment hypé par Nicolas Cage, en fait.
C'est l'attente, quoi.
Et j'ai été déçu parce que, mine de rien, comme tu dis, peut-être que c'est tout ce qu'ils ont voulu faire, mais le film promet plus, quand même.
Oui, peut-être, oui. Non, ouais. Non, mais après, en fait, je dis ça, mais... Enfin, tu sais, on vit tellement en ce moment dans un monde d'incompétence et de fainéantise qu'en vrai, c'est vrai... Non, je sais que si vous aviez pu faire quelque chose de plus drôle, vous auriez quand même voulu faire un truc plus drôle. C'est juste que peut-être vous ne saviez pas et vous êtes juste nul, quoi. J'en sais rien.
Après que peut-être que, alors là je sais pas, je spécule complètement, mais ça collerait peut-être assez bien au personnage de, enfin à Nicolas Cage acteur, c'est que peut-être que lui, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de personnel qu'il veut dire. Peut-être le problème, on sait, même lui, je pense que même il est pas sûr de ce qu'il veut dire à 100%, donc c'est peut-être ça la clé du problème. Et peut-être que dans la production de ce film, peut-être que ce mec est trop écrasant et peut-être qu'il a voulu être trop dans son truc et que peut-être que personne n'arrivait à lui placer des idées.
Attends, parce que à la base, en fait, le film,
Début, c'est pas écrit par lui.
Au début, c'est pas un projet qui part de Nicolas Cage.
Ah, d'accord.
C'est un projet de deux fans.
C'est un projet de deux fans qui avaient écrit ce scénario et qui a titillé l'intérêt d'Hollywood. Et même, si tu veux, ils pensaient que Nicolas Cage avait refusé et ils avaient mis des plans de contingence pour essayer de voir quoi faire si jamais Nicolas Cage refusait. Ils avaient envisagé de prendre, par exemple, Daniel Day-Lewis pour jouer Nicolas Cage dans le...
Ça aurait été ouf. Putain, j'aurais aimé voir ce film, quoi.
Je sais pas s'il aurait accepté, hein, Daniel Day-Lewis, mais...
T'imagines, il ressort de sa retraite hein. Tous les 4 jours.
Sa cordonnerie, ouais.
J'ai eu un feeling un peu bizarre en salle, parce que comme c'était le film, j'avais l'impression vraiment d'être de ce public, ce grand public français qui avait connu Nicolas Cage avec les 60 secondes chrono, les rocks, etc. Moi, j'ai eu l'impression que la salle, c'est-à-dire ça rigolait quand même pas mal, même sur les blagues un peu nulles, hein. Et j'ai vraiment eu l'impression que voilà, on voulait pas trop dépasser.
Oui.
Et malheureusement, ben voilà, je peux pas m'empêcher de dire que non, tu me promets quelque chose, il faut délivrer, quoi. C'est pas délivré, quoi. La promesse est pas tenue, donc forcément, on ne peut s'empêcher que d'être déçu, quoi.
Moi, j'ai l'impression que c'est comme ce film, c'est un peu comme une première séance de psychothérapie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Où le gars, il s'est pas déverrouillé encore totalement. Il était en mode genre, non, je suis quand même Nicolas Cage, tu vois. Et on n'a pas voulu aller très profondément dans une sincérité totale qui aurait permis peut-être de déverrouiller et de...
Mais et de la scène de la séance chez sa psy est plutôt pas mal d'ailleurs, parce qu'il y a un petit twist où en fait il y a sa fille qui est avec lui chez la psy, tu vois, donc il aurait pu... Tu vois, il y a quelques petits éléments quand même qui sont pas mal, mais voilà, pas exploité à fond.
Mais pareil, dans cette séance avec la psy, finalement, il se révèle rien, quoi, c'est ça le...
Ouais, voilà. Ouais. Il y a une mini promesse et hop,
c'est ça, ouais, c'est ça, c'est shutdown. Tout
après
suite, ouais.
Là, moi, moi, ce que ça m'apprend aussi ce film, c'est vraiment Pedro Pascal. Il faut vraiment plus l'utiliser dans des comédies. Ouais. Il est vraiment excellent parce que on le voyait un peu. Je trouve dans, vous savez, Wonder Woman 1984, qui est le Wonder Woman 2 là, c'est de la merde. Hein. Mais ils le font jouer un espèce de Trump. Mexicain. Et je trouvais qu'il y avait une fibre comique vraiment cool de Pedro Pascal. Et je me dis, putain, ouais, ça pourrait être un très bon acteur de film.
Non, il joue super bien parce que la scène au bord de la piscine, là, où tu sais, c'est cette scène un peu malaisante où.
Où il veut se mettre à côté du transat.
Il faut faire copain un peu, tu sais. Et genre, tu sais, il fait genre, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Il essaie de déclencher des conversations qui viennent jamais, tu vois, c'est trop marrant.
Et où ils finissent par regarder Paddington 2.
Oui.
Qui est un très bon film, vraiment un très bon film.
Mais tu vois, il y a ces trucs-là aussi, ces espèces de clins d'œil où au final, ils ont envie de te dire à toi, le spectateur de ce film-là, au final, tu sais quoi, tu devrais aller voir Paddington 2. Et en fait, c'est des choses comme ça où je me dis, ça me fait quand même sourire, tu vois. Ça me fait passer un bon moment parce que je me dis que c'est drôle quand même de penser à ça et de faire presque plus la promotion d'autres auteurs dans ton propre film, tu vois. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un film que... Franchement, c'est pas du tout un film que je reverrai, en fait, tu vois. Même si autour de moi, on me dit « Ah, bah tiens, il y a ce film qui, dans 2 ans, tu sais, qui est sur Netflix ou quoi. » Je me dirais « Ouais, non, mais regarde-le sans moi, je ferai autre chose, quoi. »
Non, mais c'est dommage parce que, par exemple, tu vois, je pense à Paul Feig. Paul Feig, par exemple, si c'est un peu un contrat à la spy où le gars il veut faire un pastiche total du film d'action, un spy avec Nicolas Cage où c'est la même chose mais un peu version film d'action, ça peut être totalement fou.
Paul Feig a un vrai talent comique, quoi. C'est-à-dire Feig, il aurait pu prendre les mêmes blagues qu'il y a dans le film et les rendre drôles, en fait. Par la mise en scène, en dirigeant les acteurs pour faire en sorte, il connaît les ressorts comiques, en fait. Et c'est ça aussi un des soucis du film.
Il les réécrirait vite fait aussi.
Est-ce que vous pensez à un réalisateur avec lequel vous aimeriez voir Nicolas Cage? Qui n'a pas, Est-ce qu'il lui parce qu'il a quand même joué avec, en fait c'est marrant parce qu'en reparcourant la filmographie, je me suis quand même rendu compte qu'il a joué quand même avec un paquet et même de grands réalisateurs, tu vois, il est quand même passé chez Scorsese, chez Lynch, chez De Palma,
Spielberg, parce que je me dis, est-ce qu'il pourrait pas faire ressortir un truc un peu genre émotionnel de Nicolas Cage, mais doux. Mais en même temps, je pense qu'il l'utiliserait quand même, Nicolas Cage, dans son full potentiel. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en ferait, en fait, Nicolas Cage, dans un Spielberg.
Moi, perso, je dirais, pour avoir revu récemment Gone Girl, et c'était quand même autre chose niveau méta-mise en scène, j'aimerais bien le voir chez Fincher, tu vois. Un gros polar fincherien, là, ça pourrait être
Mais moi, je vais te dire un truc. Almodovar prépare un film à Hollywood et j'adorerais voir Nicolas Cage chez Almodovar.
Ah ouais, putain, là, par contre, ça irait parfaitement.
Ouais.
Genre, tu vois, on reste en Espagne encore, comme dans ce film.
Non, mais tu vois l'exubérance. Oui, l'exubérance.
Le côté un peu, le personnage un peu mondain. Haut en couleur, ça serait trop bien.
Avec une robe de chambre en satin. J'ai envie de voir Nicolas Cage en robe de chambre en satin faire tout un film avec Almodovar. C'est drôle. Dites-nous, envoyez-nous des mails pour savoir quel est le réalisateur que vous voudriez voir diriger Nicolas Cage. Je connais pas ses prochains films d'ailleurs.
C'est prolifique, hein. Je crois qu'en 2022, il a encore 3 ou 4 projets dans les tuyaux.
C'est incroyable.
Le mec est chaud, quoi. Le mec est chaud.
Est-ce que je peux en profiter, du coup, pour parler un petit peu de Pig?
Ouais.
Qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui a été une énorme surprise de l'année dernière. J'en attendais pas grand-chose. Je sais pas si tu l'as vu, Jean-Yves, Pig.
Et alors, non, c'est dans ma shortlist, justement, en préparant le podcast. C'était un des films que je voulais voir, donc je l'ai pas vu.
Donc voilà, et pour moi, en fait, c'est déjà un petit peu un talent en or massif, dans le sens où il exploite vraiment tout ce qu'il fait Nicolas Cage. Et le film est presque inversé dans sa structure par rapport à un talent en or massif. C'est-à-dire, donc ça raconte l'histoire d'un type qui vend des truffes et qui cherche des truffes grâce à son cochon, et un jour son cochon se fait enlever et donc il va tout faire pour essayer de retrouver ce cochon. Et alors quand j'étais parti dans le film, surtout avec les images que j'ai de Nicolas Cage, je m'attendais à un John Wick avec un cochon, en fait, un vrai film de vengeance, tu vois, d'un Nicolas Cage vénère qui va chercher son cochon truffier. Et le film commence un petit peu comme ça. où vraiment dans la première partie on est vraiment dans un film de vengeance, bon à petit budget mais un film de vengeance où Nicolas Cage va se prendre des nions en fait et va donner des nions pour essayer de retrouver ce cochon. Bon, on a une première partie pas mauvaise mais pas franchement hyper réussie. Et en fait, à un moment arrive une scène où le type qui l'accompagne dans le film, qui est le type à qui il vend les truffes d'habitude, lui raconte une histoire et lui raconte en fait comment ses parents se sont réconciliés autour d'un repas dans un restaurant et où on apprend que ce repas dans ce restaurant avait été préparé par Nicolas Cage. En fait.
Ouais.
Et sur comment ça a créé de l'émotion et du lien entre deux personnes. Et à partir de ce moment-là, en fait, le film se retourne comme une crêpe. Et ce qu'on pensait être un film de vengeance, en fait, est un mélodrame sur la scène de la haute gastronomie américaine. Et à partir de là, tu vois, les nions, ça va se transformer en uppercut dans le cœur, en fait. Et on va passer de scène en scène où on va voir cette scène de la gastronomie, on va voir Nicolas Cage qui va dedans, et il y a un véritable discours sur l'art, sur comment, en fait, l'art est commercialisé et comment l'art, en fait, est transformé en quelque chose d'autre, sans doute de moins noble, tu vois,
ouais.
Par des phénomènes économiques, par des phénomènes de hype, et où on va analyser ça. Donc le film est très désabusé sur cette situation là, mais en fait au milieu de ça il y a une vraie croyance que au milieu de tout ça en fait l'art échappe à malgré tout à ça, et que malgré tout dans l'art contient quelque chose d'un peu plus sincère et d'un peu plus profond à l'humanité, et c'est sur ce chemin là qu'on va aller, et il va y avoir un enchaînement de scènes très émouvantes. Je pense notamment à une scène où il va revoir un de ses anciens apprentis qui a ouvert un restaurant hype à Portland, et cette scène est juste incroyable. C'est une masterclass de jeu d'acteur de la part de Nicolas Cage, une masterclass d'écriture et une masterclass de mise en scène. C'est vraiment le film, je m'y attendais pas du tout, il m'a retourné, et j'attends avec impatience les prochains films de Michael Sarnowski. C'est
ouais. Mais ça donne envie.
Ouais, ça, et moi ça m'a fait penser, parce que en fait pour moi ce discours sur l'art, pour moi c'était le discours du réalisateur et de l'autrice et de lui aussi d'ailleurs, je crois qu'il a écrit,
ouais,
sur le cinéma. Oui, et ça m'a fait penser à Shyamalan, ces derniers films là,
ouais,
où en vrai à chaque fois il parle de sa carrière au cinéma. J'ai, ouais, l'impression, j'adore ça quand tu arrives à faire passer tous ces messages là sur le concept de l'art et comment d'autres le reçoivent pendant que toi tu le crées, et à quel point tu t'ouvres pour faire quoi, comment c'est transformé.
Et sur ça, même dans ce truc où justement je préfère cette structure où on commence en te faisant croire que ça, oui, va être un, sûr, film d'action, et où en fait on développe ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que aussi quand tu te rends compte que en fait finalement retrouver ce cochon, c'est pas tellement pour trouver des truffes, c'est parce qu'il est attaché à ce cochon, quoi.
Ouais.
Et tu vois, il y a plein de choses comme ça qui vont se développer, et je trouve ça beau, quoi. C'est et pour le coup, il se sert vraiment de tout le talent de Nicolas Cage, quoi, de à quel point ça peut être un acteur touchant, en fait.
D'ailleurs, c'est marrant que ce soit toujours sur des animaux de la ferme, là, mais tu vois, entre Pig et First Cow, il y a un petit côté, tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de commencer un petit pan du cinéma sur autre chose que les cordes habituelles, tu vois, autre chose que les conflits, un héros et ses antagonistes, etc. Mmh. Et peut-être sur autre chose, le protagoniste et ce qui l'attend de la vie, en fait.
Ouais, mais t'as raison, j'ai l'impression que c'est des films, comme tu le dis, qui réfléchissent vraiment notre rapport à la narration, en fait, aujourd'hui,
ouais,
et à savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de raconter des histoires, tu vois, au-delà de ça, et c'est vrai que c'est vrai qu'on en a vu quelques-uns ces dernières années, comme ça, qui ont essayé de raconter autre chose avec des ficelles qui, au départ, semblent...
Normales. Et
ouais,
en fait, ouais.
Ouais, ouais.
Ouais, et du coup, ça donne envie, en tout cas.
Ah ouais, regarde-le.
Il est crédité aussi. Il est crédité aussi en 2023 dans une grosse dark horror comédie qui s'appelle Renfield, dans laquelle il va incarner le comte Dracula.
Ah oui,
ça peut être pas mal. C'est le gars qui avait fait Lego Batman movie. Je peux pas.
Ouais, Chris McKay, je crois.
Ouais, voilà.
Et c'est ça. Je crois que c'est centré sur le gars. Tu sais, Renfield, sur le second.
C'est le premier gars qui a envoyé avant Jonathan Harker dans l'histoire de
Dracula.
Voilà.
Et en fait, mais tu sais. Voilà, c'est ça, c'est celui que dans le film de Coppola, il rencontre à l'asile, tu sais, qui,
ouais,
mange des
cafards. Par Tom Waits, dans le film de Coppola, okay. Ouais.
Ouais, et puis surtout, ouais, il va normalement sortir la série où il joue Joe Exotic, le gars de Tiger King.
Ah oui.
Tiger King, c'est ça? Oui.
Tiger King, oui, la série documentaire sur, voilà, sur Netflix.
Et je suis d'accord, je voulais dire aussi que je suis d'accord avec le personnage de Pedro Pascal pour dire que, alors peut-être que Volteface est peut-être le meilleur film, et c'était une des bonnes blagues. Une des bonnes blagues du film, d'ailleurs, que genre il dit, il croit que c'est pour lui faire plaisir, alors qu'en fait il pense vraiment que Volteface
c'est le meilleur film de tous les temps.
Ouais. C'est un très bon film. Qui est d'ailleurs un excellent blockbuster analogique, peut-être le meilleur.
Ouais. Et bah, il le dit, oh non, en vrai, Nicolas Cage, il le dit genre, au bout, he's a maestro.
Ouais. Ouais.
Ouais. Et ben, écoutez, j'espère que ça vous a donné envie ou pas d'aller voir ce film. Ou alors, si vous l'avez déjà vu, j'espère que si vous pensez différemment. Si il y a une personne qui croit que ce film, en fait, a été calculé avec une précision d'horloger, que tout ça c'était prévu.
Et on attend aussi les meilleures suggestions, parce qu'on doit, va falloir peut-être qu'on pense à un premium épisode top 100, non? Ça pourrait être épisode 100.
Tout à fait.
Ça pourrait être pas mal de faire un premium original pour l'épisode 100. Je sais pas ce que vous en pensez.
Top 100, ça être fun. Top 100, ça va être trop long, hein.
Non, je veux dire pour l'épisode 100.
Ah oui, d'accord.
Préparer
top 100. J'étais là, un top 100, tu sais. Ça va durer 18 ouais. heures.
Top 100 dans un genre particulier. Top 100 des films avec Nicolas Cage. Voilà. Ça peut être, pas
mal. Parfait. Ben abonnez-vous, vous n'oubliez pas, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou toute quelle que soit l'application de podcast que vous utilisez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les Instagrams sont notés sur les vidéos. Et puis venez me voir en spectacle tous les jeudis à la Petite Loge jusqu'à fin juin. Et
c'est très rigolo.
C'est très rigolo, hein. Et voilà quoi. Et bisous tout simplement. Bisous.
Bye bye guys.